7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, les psys sont partout. C'est le cri d'alarme d'une journaliste, Armelle Auger. Bonjour.
Bonjour.
Vous signez un ouvrage décapant. Les psys sont partout dans un pays comme la France, à la télé, à la radio, pour commenter des attentats ou le célibat des femmes. Donc, dans nos émissions, nous le confessons, nous l'acceptons. Ils ont envahi la sphère scolaire aussi, au moindre petit blocage d'apprentissage. Et est-ce que l'on sait beaucoup moins, que vous allez aussi nous raconter, Armelle Auger, c'est que côté emploi, ils sont dans les bureaux des recruteurs, les psys, avec des tests de personnalité pour les candidats. Un constat qui ne va pas émouvoir notre correspondante en Argentine, où le psy est une pratique culturelle et où récemment, d'ailleurs, deux députés se sont insultés à coups de « vous devriez voir quelqu'un ». C'est justement le titre de votre livre, Armelle Auger. Je sens qu'on va passer un bon moment ensemble. Les voisins, tous sur le divan. Les psys peuvent-ils régler tous vos problèmes? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr vous postez comme d'habitude sur Facebook et sur Twitter. Et tout de suite, réaction de voisins dans la capitale française.
D'aller voir un psy, il faut vraiment avoir des vrais problèmes, des essais, ou qu'on aime quelqu'un, ou vraiment qu'on, voilà, vraiment qui touche la personne, quoi.
Mais, en fait, mais c'est étonnant ce que vous dites, parce
moi
que...
j'ai un petit frère et une petite sœur qui ont des petits. Bah, le psychologue, c'est leur grand truc.
Ça fait un peu, je vais pas comparer ça au bio, mais enfin voilà, le style, voilà, on se lance dans le vegan, donc on va aussi chez son psy en même temps.
Il se dispute avec son frère, il a pas l'air d'aimer son frère, il aime pas les haricots verts, bah, la belle affaire.
Des petites choses comme ça du quotidien, c'est bon, on n'a pas besoin d'aller chez le psy, voilà.
Une copine qui dit oui, ouais, j'ai pas rencontré l'amour de ma vie, nanana, nanana. Je pose des questions basiques, t'es en bonne santé, oui, t'as un travail, oui, t'as un appart, oui, tu manges, oui, tu voyages, oui, so what.
Justement, j'avais une copine hier qui m'a dit qu'elle a pris rendez-vous avec un psy pour 110 euros de l'heure. Ouais. Je lui ai dit, mais t'es folle, c'est 110 euros, je sais pas, va te faire un massage, ça te fera du bien.
Le psy sera mieux que le psy.
J'irais bien voir un psy aussi, mais je trouve que la démarche pour aller voir un psy à notre âge est compliquée parce qu'il faut en parler à son entourage, il faut le dire. C'est plus mes parents où j'ai peur. Ils se disent à chaque fois, mais non, c'est bon, j'ai pas besoin d'aller voir un psy, comme si c'était quelque chose de pas normal, enfin, comme on est malade, alors qu'au final... Moi, je pense qu'il faut vraiment dédramatiser le truc et que ça peut faire du bien à tout le monde.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Ah oui, les avis sont partagés, hein, tout de même, Armelle Auger.
Oui, mais ils expriment bien à la fois ce psy qu'on va voir pour tout et n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Hein, c'est,
on parle pas de la pathologie grave,
ah non,
on est
encore
bien d'accord.
Encore une fois, hein, les psys,
c'est pas l'objet de votre
question de
votre enquête.
Voilà, de dire ils ne servent à rien, il ne faut plus qu'ils existent. Il y a des pathologies, celles de la dépression, etc., qui sont des pathologies. Et là où on a besoin d'une aide qui est à la fois médicale, ou analytique ou psychothérapique. Ok. Là, ce dont on parle, c'est en effet, mon enfant n'aime pas les haricots verts, je mange trop de Nutella, hein, parce que ça, c'est... J'ai rencontré des gens qui allaient voir un psy en disant, bon, j'ai une addiction au Nutella, ça veut dire quelque chose, et, ou bien j'ai un chagrin d'amour, des choses qui relèvent des émotions ou de la vie quotidienne, et où on se dit, ah mais le psy va me trouver une solution, il a un kit tout prêt, je vais repartir comme je vais chez le dentiste et qu'il me soigne ma carie.
Laissons la parole à des auditeurs. Justement, on a Elisabeth qui poste de Montréal, qui dit que les psys sont omniprésents au Canada parce que les gens sont de plus en plus conscients que l'amélioration de leur vie est possible et que la souffrance n'est pas une fatalité. Et du coup, nous dit Elisabeth, quand ça va mal, les gens vont chercher de l'aide un peu partout en posant des questions de façon anonyme à 7 milliards de voisins ou à Priorité Santé ou en lisant des livres de développement personnel. Ça aussi, ou en consultant un psy. Et puis on a le message de Ninel qui poste de Yaoundé au Cameroun et qui nous dit que au Cameroun, la société fait son diagnostic elle-même. T'as besoin de parler, un voisin, la coiffeuse ou une amie s'improvise psy. T'es victime de violence, on suppose que ça t'endurcira, poursuit Ninel. T'es bipolaire, on te laisse à tes sautes d'humeur. Tu entres dans un mutisme, les sorciers du village ont attaché ta langue. T'as le baby blues, tu manques d'instinct maternel. Allez voir un psy, vie, ça c'est dans les pays développés. Bref, c'est un truc de beau. Et c'est une question de culture. Dans certaines sociétés, conclut Ninel, on est trop alarmiste. Donc c'est le cas de la France, c'est ce que vous nous dites, peut-être, Armel Auger. Et quand dans d'autres, on n'est au contraire pas assez conscient. Voilà une analyse intéressante. Et bien sûr, vous poursuivez, vous avez la parole. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
On donne la parole à un auditeur en direct. Babacar nous appelle de Dakar. Vous avez 25 ans, Babacar. Et vous, quel est votre point de vue sur les psys ?
Bonjour Emmanuel. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bon, dans mon pays, le métier de psy n'est pas très connu. En plus, les gens pensent que pour aller voir le psy, il faut être diminué mentalement. Il faut être fou, voilà, pour aller voir le psy. Et en plus, il y a un préjugé selon lequel les Occidentaux seraient beaucoup plus faibles mentalement. Donc, ils auraient plus besoin de psy que les Africains.
Ah, les Blancs sont plus fragiles, donc ils ont besoin d'un psy. C'est ça, hein, pour parler clairement, Babacar.
Voilà, exactement. Donc, ils auraient plus besoin d'un psy que, par exemple, un Africain.
Oui.
Parce qu'ils seraient plus faible mentalement.
Oui, oui. Intéressant le point de vue de votre société. Babacar, merci de nous avoir appelé. On donne la parole à une voisine qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Gladys, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins.
Vous venez
bonjour.
D'entendre Babacar qui parlait du préjugé des Africains par rapport à une forme de fragilité et qui expliquerait le besoin des psys dans des pays d'Europe notamment.
Oui, et ça c'est un grand problème parce que peu importe la couleur, on a tous besoin d'un psy. Et moi, je prends mon exemple par exemple. Je me suis rendu compte en lisant beaucoup de bouquins que j'ai une maladie due au stress. J'ai souvent de bouffées d'angoisse. Et je me suis rendu compte que bien que j'étais une élève brillante à l'école, j'avais des ratés.
Ouais.
Et je me suis rendu compte que si j'avais eu une aide de psy un peu assez tôt, ouais, ma situation actuelle aurait pu être différente.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez le sentiment, ce que vous avez découvert en lisant, c'est que vous auriez pu mieux réussir scolairement si vous aviez été aidé sur le plan psychologique, c'est ça ? Non,
oui,
c'est un problème
de
confiance en vous, c'est ça ?
Oui, c'est une confiance en moi.
Merci beaucoup Gladys de nous avoir appelé. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Armel Auger, vous signez une enquête vraiment où vous dénoncez l'emprise des psys sur un pays comme la France, sur le plan de la société, comment ils ont phagocyté finalement le débat public. Mais finalement, qui vous êtes pour déclarer la guerre à un empire, l'empire de la psy-attitude ?
Un empire et un pouvoir, hein, réel. Réel, parce qu'en effet, le savoir psy, les psys ont intégré, ont infiltré toutes les strates de la société. Alors ça s'est fait en effet en quelques décennies, mais les strates, que ce soit celle de la, donc de la psychiatrie, hein, qui n'était pas, parce qu'il y a une différence entre psychiatre, psychanalyste,
ça veut dire qu'on
etc.
est médecin, hein.
De la psychiatrie, de l'éducation, du monde du travail, du monde médico-social, du monde alors intellectuel, n'en parlons pas. J'ai un psy, je pense donc j'ai un psy, hein, ouais. Dans un certain...
Seulement dans les milieux très élitistes,
et
parce que les chiffres, c'est
dans les
33%
élitistes.
Des Français ont déjà consulté
et
un psy.
Ce que disait tout à l'heure...
40% des femmes.
Voilà, tout à fait. Et ce que disait tout à l'heure un de nos interlocuteurs, là, qui nous a appelés, c'est pas faux sur cette fragilité, mais c'est pas une fragilité, c'est qu'on a fragilisé le citoyen et l'individu lambda en lui disant maintenant, écoute, on va gérer toute tout est petit. Alors, encore une fois, on ne parle pas, par exemple, de bouffées d'angoisse dont notre interlocutrice parlait tout à l'heure. Les bouffées d'angoisse, la dépression, le mal-être profond, il y a un besoin d'accompagnement. Mais le chagrin d'amour, même un deuil, une frustration au boulot, un licenciement.
On a fragilisé l'individu, dites-vous.
En lui disant, on va prendre en charge toutes tes émotions. Or, les émotions, c'est quelque chose d'inhérent à la nature humaine. Et c'est ce qui favorise la résilience et la force de l'individu.
Il y a le point de vue nord-américain d'Elisabeth qui postait tout à l'heure de Montréal et qui dit, en fait, il y a cette idée que l'amélioration de notre vie est possible.
Mais je ne pense pas qu'elle passe obligatoirement par la prise en charge. L'amélioration de notre vie, bien sûr, en plus, bon, le bonheur en plus, hein, c'est vécu comme un dû dans nos sociétés occidentales et très privilégiées, mais si le psy que vous allez voir, qu'il soit, parce que là encore, c'est une ethnie extrêmement plurielle, avec des psychothérapeutes, des coachs, des analystes, tout ça se mélange, et les gens ne savent même pas qui ils vont voir vraiment, mais il n'a pas, on pense qu'il a un kit et qu'on va comme chez le, on amène son jeune enfant comme on l'emmène chez l'orthodontiste, hop, on va lui resserrer les dents.
La moitié des consultations concernent les enfants. Voilà. En réalité, dites-vous, les psys masquent des dysfonctionnements familiaux, des dysfonctionnements scolaires.
Bien sûr. Par exemple, le psy, alors déjà, il y a des psys qui disent eux-mêmes, mais les parents m'amènent un ado, parce qu'alors là, l'ado, qui ne va pas voir un psy pendant... Et plein de parents se disent, un jour ou l'autre, il faudra qu'on ait un psy. Il faut que j'ai un psy, un nom de psy, parce qu'il va arriver dans la case ado, la phase ado, c'est obligatoire, il va se passer obligatoirement des choses. Là encore, c'est pas du tout une fatalité comme on le raconte. Et les médias, là aussi, jouent un rôle de relais, comme joue l'école, qui, tout petit, va dire, vous savez, il faudrait peut-être bien que vous alliez voir quelqu'un. Alors que ça peut être un problème de purement scolaire qui est lié à un environnement social, ou un environnement éducatif qui va générer un problème. Le psy sert il masque les problèmes. C'est ça aussi qui est soucieux. Non seulement il fragilise une société en disant on va vous prendre en charge, on va vous accompagner. Moi j'ai toujours cette phrase de Maria Montessori que j'aime beaucoup, apprends-moi à faire seul. Et ok, se débrouiller, vivre avec ses émotions et non pas les gommer. Ok, vous gommez une tristesse,
l'émotion n'est pas une pathologie.
Vous gommez aussi la possibilité de la joie, vous gommez aussi la possibilité
Sur Internet, vous avez beaucoup fouillé Internet. Oui. Délire. Exemple, ma fille dessine des nuages au-dessus de sa maison. J'ai lu que c'était un signe d'angoisse. Les fenêtres de la maison ont des volets. Ma fille veut-elle cacher quelque chose qui lui fait peur? Il n'y a pas de porte sur sa maison. Mon fils est-il trop attaché à moi? Je vous propose d'écouter un témoignage maintenant, Armelle Auger. Yasmine, la trentaine, mère de deux enfants, vit à Paris avec son mari et elle voit un psy depuis des années. Et bien sûr, elle a poursuivi les confidences au micro d'Alice Milo.
J'ai fait plusieurs thérapies. J'en ai fait une première à 15 ans quand mes parents se séparaient. J'allais pas bien, je perdais mes cheveux, j'ai perdu beaucoup de poids. Et donc, ma mère s'est dit peut-être qu'il faudrait qu'elle aille faire une thérapie. Donc, ça n'a pas duré longtemps, c'était en Algérie. Et après, ma deuxième thérapie, c'était en arrivant en France. Et là, quand je me suis retrouvée toute seule, il y a tout qui est remonté à la surface, entre autres ma relation avec mes parents, qui est la plus conflictuelle dans ma vie. J'ai fait pas mal de cauchemars et j'ai senti qu'il fallait que j'aille voir quelqu'un. Je suis allée voir une psychiatre-thérapeute et au bout d'un quart d'heure, elle m'a sorti des horreurs et elle m'a mis sous médoc.
Sous antidépresseur,
c'est ça ? Oui, c'est ça. Je ne me considère pas comme étant folle, ayant besoin de médicaments. Donc, par rapport au psy, donc, je me suis dit plus jamais. Donc, je n'ai pas voulu prendre ces médicaments. Et après, avec mon copain, qui est devenu par la suite mon mari, on s'était mariés et un an après, on s'est installés ensemble. Donc, on a fait un peu les choses à l'envers. Et au bout de 3 semaines de vie commune, c'est parti en vrille, on a décidé d'aller faire une thérapie de couple. Ça a duré 2 ans. Première année, c'était très dur. Nous arrivait des fois d'arriver, on se faisait des bisous en tapant le code et en partant de là-bas et on s'adressait plus la parole. Donc il y a des moments où tu te dis, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que c'est pas en train de plus foutre en l'air mon couple? Et au bout de la première année, on a commencé à apprendre à communiquer ensemble. Et au final, ça nous a fait du bien. Par contre, cette dernière année m'a permis aussi de savoir qu'on commençait à trop déterrer mes petits démons à moi et c'était mes démons et je voulais les déterrer toute seule. Et là, je me suis sérieusement posé la question si je voulais faire une thérapie toute seule ou pas. Donc, j'ai rappelé la personne d'Odéon, la psychiatre psychanalyste. Je lui ai dit, alors, la règle, c'est zéro médoc. Je ne suis pas folle. Je n'en ai pas besoin. J'ai juste besoin de ne pas cracher mon venin sur tout le monde, d'avoir un endroit où je peux aller pleurer, crier, je ne sais pas. Mais je sais que je n'aime pas vider mon état d'âme sur les gens. Donc, j'ai envie de le vider dans un endroit où je paye pour le faire. Donc, il y a ceux qui se payent, je ne sais pas, une partie de boxe. Moi, je n'y arrive pas. Et ben, je me paye une thérapie pour aller crier et rentrer chez moi tranquille. Et donc, je suis allée la voir. Et je me rappelle ma première séance à Ikea quand elle m'a annoncé son tarif. J'en ai chialé parce que c'était 60 euros la demi-heure.
60 euros la demi-heure.
Oui, et c'est toujours 60 euros la demi-heure. Donc, à l'époque, je ne touchais pas grand-chose. Donc, et je venais d'acheter un appartement, donc c'était un peu compliqué. Et je me suis dit, j'y vais pour vraiment me libérer. J'y vais pas forcément pour résoudre des problèmes dans ma vie. De toutes les façons, je ne suis pas sûre que je vais tout résoudre. Une des principales raisons pour laquelle je vais voir une thérapeute, c'est à cause de ma mère. Par exemple, là, il y a ma mère qui est venue à Paris. Donc, ma mère habite en Algérie. Et donc, j'ai vu ma thérapeute la veille de l'arrivée de ma mère. J'ai vu ma thérapeute 2 jours après l'arrivée de ma mère. Et j'ai dit, est-ce que vous avez des dispo à me booker pendant les 2 semaines? Dès que je sais qu'il y a ma mère dans les parages. Oui, c'est ma drogue. Pour passer ma mère, il faut que je me shoote à ma psy. Parce que sinon, je ne peux pas passer ma mère. Je pense que sinon, je tue ma mère. Donc, elle me permet de faire passer ma mère. Chez elle, je peux en parler. Je n'en parle pas avec mon mari. Je ne peux pas. Avec toutes mes amies, il y a celles qui me disent, non, mais c'est ta mère et ceci et cela. Tu as envie de leur dire, oui, bah, je vous la laisse pendant une semaine, vous allez voir ce que ça va donner. Et donc, au moins, elle, eh ben, elle me dit, oui, là, t'as exagéré, ou là, t'as raison. Et donc, où il y a des moments, je ne l'écoute pas, de toutes les façons. Ça fait 5 ans, donc, alors là, j'aurais jamais pensé passer autant de temps avec elle. Donc, c'est vrai que je me pose souvent la question, quand est-ce que je vais arrêter? Chantal, on va se voir jusqu'à mes 50 ans, mais elle est là, au moins 65 ans, 70 ans, donc je me dis, putain, je vais la suivre jusqu'à sa mort, comment on va faire? Non, mais c'est vrai, il y a des moments où je me dis, mais comment je vais faire si elle meurt? Je ne sais pas. Et est-ce que je vais arrêter avant sa retraite ou pas? Quand je lui dis en rigolant, elle ne m'a jamais répondu. Donc, des moments où on se dit, mais est-ce qu'il y a une fin à tout ça?
Est-ce que je vais lâcher mon psy avant qu'il parte à la retraite? On se croirait à New York dans un film de Woody Allen.
Non, mais cette dépendance, parce que là, c'est une dépendance, je l'ai écoutée, rencontrée dans nombre de témoins et de gens que j'ai interviewés. C'est ce côté. Alors, ça allait de... j'en cite un qui dit, ah ben moi, quand chaque fois que je dois faire quelque chose d'important, c'est ou la psy, ou le... Vous savez, sur Internet ou sur le smartphone, le tarot. Vous voyez, Marseille. Alors, avec les deux, bah, j'arrive à me faire ma petite décision. Vous en avez qui voient avant rencontrer quelqu'un pour le rencontrer, pendant qu'ils sont avec quelqu'un pour bien vivre, après, quand ils l'ont quitté.
Pour la rencontre amoureuse, ça.
Ah oui, pour la rencontre amoureuse.
Le couple, les parents, la famille, sont les principaux motifs de consultation des
c'est
adultes.
Alors, les enfants hein, oui. sont vraiment, et avec quand même des dérives, c'est-à-dire sur un regard sur l'enfant et une normalisation. Moi, que je trouve très gênante. Par exemple, sur ce problème des enfants hyperactifs, il y en a. Et il y a des cas où il faut en effet que l'enfant soit suivi, notamment par un psychiatre, etc. Mais comme par hasard, depuis que c'est inscrit au DSM, la Bible hein, des psys, l'hyperactivité a grimpé de plus de 30%. On vous dit un enfant est hyperactif dès qu'il est, qu'il regarde en l'air. Ça me fait penser à la photo, la belle photo de Doineau. Quel enfant n'a pas bougé, n'a pas sauté partout, n'a pas été, surtout quand il est dans une ville, dans un appartement. Bon, et très vite, c'est... Ah non, il est hyperactif. Bon, il y a comme ça quelque chose qui stigmatise, qui classe et qui étiquette
très
les
français,
enfants.
Très
de
français,
façon,
selon vous, parce que.
Dès
vous,
le bébé.
Et vous dites que les
bébé.
Américains eux-mêmes sont étonnés maintenant de l'emprise
oui,
des psys dans la société
absolument.
Française, pourtant.
Parce qu'il y a une emprise, bon, on a tous hein, Woody Allen, les films, etc.
Et puis surtout de grands psychanalystes
mais
aussi
ils ont fait,
sur le territoire américain, notamment
absolument.
Les pédopsychiatres, hein,
absolument,
Winnicott, etc.
Absolument, qu'on a tous suivi. Enfin, bon. Mais Il y a un très net recul de la pratique psy, en tout cas analytique, et il y a surtout une révolution culturelle qu'ils ont fait. Ils ont remis en cause certaines paradigmes, certaines références qui sont totalement obsolètes.
Armel Auger, alors vous restez avec nous, on va bien sûr se retrouver juste après le flash. On verra le cas de l'Argentine d'ailleurs, hein, où c'est pas mal aussi dans le genre. Et bien sûr, les voisins et les voisines, vous nous appelez. À quoi peuvent servir les psys dans nos sociétés? 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, en direct du lundi au vendredi sur RFI. À quoi servent les psys dans nos sociétés? De quoi sont-ils témoins? Pourquoi on leur demande leur avis sur tout et n'importe quoi? Ce sont les questions que vous posez dans votre livre enquête, Armel Auger. Vous publiez « Vous devriez voir quelqu'un », la fameuse phrase. De la maternelle à la carte senior, comment les psys s'immiscent dans nos vies? C'est publié aux éditions de l'Artilleur. Et bien sûr, vous nous appelez les voisins pour nous dire ce que vous pensez des psys comme phénomène culturel. D'ailleurs, vous dites, Armel Auger, que ça crédibilise une société comme étant une société développée lorsque les psys y sont bien installés, hein, pratiquement.
Oui.
Une société pensée parce qu'elle allait chez le psy.
Voilà, je pense, donc j'ai un psy, je sous-entendu, je m'interroge, j'ai une capacité de regard sur moi.
Donc un signe de culture.
Oui, or c'est un signe d'individualité d'une société extrêmement moi d'abord, avec toutes les dérives du moi d'abord poussé à outrance, c'est-à-dire quelque part, il y a un psy que j'aime beaucoup qui dit mais c'est fou comment ces sociétés qui ont des gens qui vont voir des psys, pourquoi ces gens sont des sociétés si passives et si mal dans leur peau, parce que justement leurs élites vont voir des psys et suivent des psys,
les managers, on en parlera aussi. Allez, appelez-nous les voisins au 33 1 84 22 71 71. Même si les psys sont inexistants dans votre pays, vous avez forcément un point de vue. L'artiste Salvador Dali disait « Le coup de pied au cul, c'est la psychanalyse du pauvre. Mmh. » Voilà. Eh bien, écoutez, direction l'Argentine maintenant. C'est là que l'on trouve le plus grand nombre de psychologues par habitant au monde. 200 professionnels pour 100 000 habitants, alors qu'on en compte 14 pour 100 000 habitants en France. Une tendance qui ne cesse de croître, d'ailleurs, et qui explique donc que la psychologie soit une discipline très respectée en Argentine. Audevillier Moriamé, vous êtes en direct avec nous, vous êtes la correspondante de RFI à Buenos Aires. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Alors Aude, concrètement, est-ce que ça veut dire que tous les Argentins vont chez le psychologue? Comment se manifeste cette passion au quotidien?
Alors c'est quelque chose de très ancré dans la société argentine. Comme vous le disiez, aller consulter un psychologue en Argentine, ça n'a rien de tabou, parce que là où en Europe on a tendance à se cacher quand on va voir quelqu'un, d'ailleurs on évite de le mentionner, eh bien en Argentine c'est tout à fait normal de dire par exemple « Tengo psicólogo a las 18, j'ai psychologue à 18h ». Dans les films et les séries argentines, on voit des personnages de psychologues absolument partout, sans compter les publicités. Écoutez par exemple celle-ci pour Fernet, une marque d'alcool.
¿Cómo está Julián?
No sé.
La culpa es de tu madre.
Claro.
Nos vemos la próxima semana.
Dale.
Extremadamente práctico. 1882 sabor Fernet y cola. Listo para tomar.
Donc dans cette pub argentine, on assiste à un dialogue chez un psychologue. Qui dit quoi, Aude?
Alors ça va très vite. Hein. On voit un patient allongé sur le divan à qui son psychologue demande « Comment ça va, Julian ?» Lui répond « Je ne sais pas ». Et le psy de déclarer « C'est la faute de votre mère, on se voit la semaine prochaine ». La pub conclut par le slogan « Fernet, extrêmement efficace ». Et sachez que Fernet n'est pas la seule marque d'alcool qui s'est fait un malin plaisir à se déclarer plus efficace et plus rapide qu'une séance chez le psy. Notons que dans la sphère politique, c'est aussi un phénomène qui est assez visible. Quand un responsable politique s'emporte un peu trop, ce qui est assez fréquent en Argentine, ses opposants lui conseillent souvent publiquement d'aller souffler un peu chez le psy. Pas plus tard que la semaine dernière, deux députés ont officialisé comme ça leur rupture politique, lorsque l'un d'eux a rappelé à l'autre qu'il existait plein de spécialistes à Buenos Aires pour traiter ses obsessions.
C'est sympathique comme ambiance. Est-ce que ça veut dire que les Argentins sont plus déprimés ou malheureux que les autres?
Alors on pourrait le penser, mais a priori non, ou du moins pas forcément plus déprimés que les Français par exemple. Si on en croit le classement de l'ONU des pays dont les habitants sont les plus heureux au monde, l'Argentine arrive 26e et la France 32e, un peu derrière. Non, disons qu'elle est consultée en Argentine, c'est presque comme se livrer à sa session de sport hebdomadaire. Le cabinet du psychologue, c'est comme un défouloir dont les Argentins ne se privent pas, et ils auraient tort de le faire puisque c'est vraiment une pratique qui est facilitée. La majorité des mutuelles privées remboursent à 90 voire 100% les sessions. Ah oui. Et puis il existe de nombreuses associations qui proposent des séances à petit prix pour les étudiants par exemple. Précisons enfin que tous les lycées argentins ont un cabinet de psychologie et que certains proposent même aux élèves d'étudier la matière en option en terminale.
Oui, comme ça on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors pourquoi tant de psychologues en Argentine ? D'où ça vient dans le fond ?
Alors il y a plusieurs explications. La plus logique voudrait que la psychologie soit devenue très populaire en Argentine dans la deuxième moitié du XXe siècle. Plusieurs grands spécialistes, parmi lesquels Lacan, ont fait des conférences à Buenos Aires qui ont été très suivies et qui ont créé de nombreux disciples de l'autre côté de l'Atlantique. Puis durant la dictature militaire, entre 1976 et 1983, la psychologie a été considérée comme une discipline subversive, discipline qui a donc connu un grand regain de popularité lors du retour à la démocratie. Et depuis les années 80, les départements de psychologie ont tous été considérablement agrandis dans les facs argentines. Et puis, il y a d'autres explications un peu plus romanesques. Les Argentins sont nombreux à avoir des origines mélangées, lointaines. Les deux tiers des habitants de Buenos Aires, les porteños, ont un parent italien, par exemple. Et pour beaucoup de thérapeutes, c'est ce mélange d'origine européenne et latino, beaucoup plus important que dans les autres pays d'Amérique du Sud, qui pousserait les Argentins à avoir un fort questionnement identitaire et donc à consulter davantage. On le voit bien avec le tango, la musique argentine par excellence. C'est une musique extrêmement mélancolique qui reflétait beaucoup au début du XXe siècle la douleur et l'éloignement que ressentaient les migrants européens.
Oui, mais alors si tous les pays qui ont du brassage identitaire ont besoin de psy, les psy ont un très très bon avenir devant eux. Merci beaucoup Audvillier Moriamé en direct de Buenos Aires pour ces explications. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Armelle Auger, un mot de réaction sur l'Argentine, vous voyez.
Oui, c'est une exception avec la France. Hein, ce sont les deux pays qui font le plus appel à des psys. Lacan peut-être a été donné sa bonne parole, pourtant fort complexe, mais bon, elle a été a priori décodée et comprise. Par contre, les États-Unis, on le sait, eux font un petit peu marche arrière sur, en tout cas, ce qui relève de la psychanalyse.
Oui, hein.
Encore
oui.
Une fois, il y a une différence entre psychiatrie, psychanalyse,
qui a été largement supplantée par davantage de psychothérapie
coaching,
comportementaliste,
voilà,
où on ne cherche pas à
ce
creuser
fameux développement personnel, voilà. Qui aux États-Unis, par contre. Notamment au niveau de l'entreprise, etc., connaît
qui
un succès
qui propose des solutions
phénoménales.
Rapides, ah, ben d'autant
là,
plus.
C'est de l'efficacité et du pragmatisme. On n'est pas dans le décodage des émotions et dans le long voyage dans l'inconscient. Là.
On donne la parole à nos auditeurs. André est en Roumanie. Bonjour André.
Oui, bonjour Eraki.
André, vous nous appelez en direct de... Où est-ce que vous êtes exactement, à Bucarest ?
Oui, je suis à Bucarest.
Vous nous écoutez en FM ?
Oui, oui, oui.
Vous avez 30 ans, vous êtes d'origine camerounaise.
Oui.
Ouais. Voilà. On vous écoute.
Merci RFI de me donner la parole, c'est un sujet vraiment intéressant. J'ai suivi le témoignage de deux auditeurs, une auditrice du Cameroun et un autre, je pense, de la Côte d'Ivoire. Celle du Cameroun a dit, chez nous, le psychologue, c'est la voisine, c'est la sœur, c'est la copine.
Ouais.
Et elle a conclu en disant... C'est pour les Européens, le psychologue. Mmh. Et celui de Côte d'Ivoire, je pense, le résumé, c'était les Blancs sont faibles.
Oui, c'est ça. C'était voilà. Un témoignage d'un Sénégalais, mais peu importe. Hein. C'est
voilà,
vrai qu'on a retrouvé ça beaucoup
voilà.
Dans les témoignages de nos auditeurs. Oui.
Voilà. Je pense comme ces deux auditeurs, parce que moi, je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. Mmh. Et la société est faite de telle sorte qu'on a moins de problèmes... d'angoisse, de stress, de peur. Pas pour dire qu'il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Il y a des gens qui sont malades, qui doivent consulter des psychologues. Mais pas pour des problèmes comme ce que je vois ici en Europe. Mmh. Moi, je vis en Europe depuis plus de 8 ans. Et la société européenne est faite, selon moi, pour avoir besoin des psychologues.
Ah oui ?
Parce que quand...
C'est-à-dire ?
Oui. C'est-à-dire que quand quelqu'un se lève chez lui le matin, il n'a personne avec qui parler.
Oui.
Il vit dans un bloc. Il ne peut pas saluer ses voisins. Il ne peut pas parler avec ses voisins. C'est normal
oui.
Qu'il se retrouve
donc
avec
des problèmes. Donc le psy pallie une solitude occidentale des pays développés, c'est ça, selon vous ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui, qui entendent cette, ouais. cette situation
vous,
en Europe.
Vous êtes marié à une Roumaine ou à une, oui. vous avez une...
Je suis marié à une Roumaine, j'ai dit cela. Et dans ma vie de foyer, il y a certaines angoisses, peurs, dont ma femme ne résiste pas. Au travail, elle a un petit problème et elle craque facilement. Ouais. Quand moi, je suis résistant, je passe beaucoup de choses sans tout se réfléchir. Et elle, ça ne la laisse pas indifférent. Après des mois, elle est toujours affectée. C'est-à-dire, ça se sent. Moi, je vous dis, je le vois tous les jours dans nos relations. Et il y a une faiblesse que nous, les Africains, on n'a pas. Il y a des peurs qu'elle a, que moi, je n'ai pas. C'est-à-dire, même un enfant en Afrique à 5 ans, il n'a pas ce genre de peur.
Exemple.
Et moi, je lui... exemple, je ne sais pas... Un exemple banal, qu'est-ce que je peux vous dire là maintenant? Changer une ampoule, par exemple. Changer une ampoule. Par exemple, moi, je peux changer une ampoule chez moi sans stress. Bon.
Ouais, bon, attendez, on ne va pas chez le psy parce qu'on a peur de changer une ampoule quand même, André. Non. Vous êtes dur là, non, avec les Européens.
Non. Un exemple vraiment sous la main, oui. Je ne l'ai pas. Mais je vous dis tous
non,
les jours...
Non, mais on a bien compris votre témoignage, c'est intéressant. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir appelés. On donne la parole à un autre auditeur et très bonne journée à vous à Bucarest. Merci encore. Aboubacar nous appelle d'Abidjan. Bonjour Aboubacar.
Oui, bonjour.
On vous écoute, vous êtes en direct.
Ok, merci pour l'antenne. Ce que je voulais dire, c'est qu'en Afrique, tous les problèmes se retrouvent en famille. Et quand on va chez un psy, c'est pour échanger, c'est pour se faire écouter. Et comme les problèmes en Afrique se retrouvent en famille, on a l'embarras du choix, on peut parler avec l'oncle, la tante, le frère, la sœur, les gens ont de la disponibilité pour nous écouter. Quand bien même que les conseils qu'on reçoit en retour ne sont pas forcément indiqués, mais on en ressort soulagé.
Oui, vous êtes lucide hein, sur la validité des conseils. Mais c'est intéressant parce que nos auditeurs nous disent souvent, les jeunes en tout cas, nous disent on ne peut pas parler avec nos parents, mes parents au sens biologique, le père et la mère, la famille nucléaire. Mais vous dites, c'est avec la famille élargie qu'on trouve cette oreille attentive.
Hein. Voilà.
Merci de nous avoir appelé Aboubacar. Armel Auger, je voudrais qu'on passe au monde du travail parce que dans votre enquête, vous faites des révélations qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, qui dépassent un peu les constatations de nos auditeurs, notamment les tests psy pour le recrutement. Vous citez le témoignage d'un jeune, Adrien, 28 ans, il est Bac plus 5, sorti dans les 10 premiers de ma promotion, nous dit-il. À chaque entretien, je passe un test, SOSI, ça s'appelle, qui me mine auprès des recruteurs. La personnalité qui ressort du test, instable et désordonnée, n'est pas compatible avec mon métier. J'ai une formation d'ingénieur et les recruteurs m'évincent.
Oui, les tests ont une importance extrême dans l'univers du travail et notamment certains types de métiers et c'est l'encadrement. Oui, il y a des tests avec le fait que ces tests ne sont pas scientifiques. Alors, il y a divers tests. Hein. Certains sont directement généré par la Bible freudienne, dont on s'en rentrait dans les détails, dont les paramètres sont extrêmement obsolètes pour
le
certains.
Le Sigmund, c'est ça ?
Voilà, pour certains.
450 questions pour tester votre aptitude à la négociation.
Voilà, ou certains qui relèvent directement, qui ont été élaborés par Jung. Mais c'était des hommes qui ont eu des fulgurances très intéressantes à une certaine époque. Ça n'a surtout rien de scientifique. Ensuite, ces tests passent par le tamis du décodage du psy. Et donc, être sur un travail avec des items qui vont vous stigmatiser parce que vous allez rentrer dans un tel ou tel profil, comme ce malheureux qui apparaît toujours comme désordonné avec une pensée plurielle, alors que ça peut être un plus, normalement, parce que ça génère une capacité d'adaptation, ça peut être vraiment très embêtant, quoi.
Qu'est-ce qu'un top, vous expliquez dans votre livre, un porteur du trouble de l'opposition et de la provocation.
Alors c'est dans le DSM, toujours cette fameuse Bible.
DSM, ça veut dire
alors,
quoi exactement
le DSM, c'est la Bible, le terme est anglais, c'est la Bible de tous les psychiatres, mais qui est largement utilisée aussi par les psys, qui ne sont pas obligatoirement donc psychiatres. Et je vous assure que vous regardez et vous êtes dedans. Vous avez des troubles qui obligatoirement est dedans.
Tout le monde est dedans.
Quand je cite l'exemple, simplement un chagrin qui dure plus de 3 semaines après un deuil, bah, ça peut, c'est juste
a priori,
relativement
c'est
logique.
Normal, ouais.
Vous rentrez déjà dans le traumatisme du deuil non fait. Donc le DSM est le top, c'est cette capacité à avoir des problèmes avec l'autorité. Mais ça veut dire quoi?
Donc,
là aussi.
En fait, un emmerdeur, tout
voilà,
simplement.
Voilà. Non, mais tout simplement, votre chef, votre N+1, il va vous dire quelque chose et vous allez lui répondre de façon un petit peu virulente en disant, mais là, je ne comprends pas ta directive ou votre directive selon qu'on est dans une structure start-up ou une structure traditionnelle. Et il va pouvoir dire à la DRH, il faudrait peut-être voir le psy, etc. Ouais. Enfin, le psy,
y
le
compris
conseiller.
À Pôle emploi,
etc.
D'ailleurs, voilà. Hein, pour la recherche d'emploi, plus de 600 psys à Pôle emploi, ça je ne savais pas.
Et pareil, c'est des fiches où on va vous cocher des petites cases, et après tout ça passe par algorithme, puisque maintenant on a ce plus au service des paramètres psy qui sont les algorithmes, et on va vous sortir une fiche en disant, voilà, vous êtes faite pour ce type d'emploi, ou on va mêler aussi votre vie privée à Pôle emploi en disant, oui, mais quand même, là, vous n'êtes pas marié, vous êtes toujours célibataire, est-ce que vous arrivez à établir un relationnel, etc. Donc, avec l'équipe, c'est peut-être bizarre que vous n'arriviez pas à vous intégrer.
Et dans l'entreprise, alors, quid des risques de ce qu'on appelle maintenant les risques psychosociaux et l'injonction du bonheur au travail?
C'est ce bonheur au travail, alors aussi le burn-out, qui est un réel souci. Et la souffrance au travail, c'est pas du tout à prendre à la légère. Il y a des cas de souffrance au travail et qui mènent d'ailleurs à des choses très graves comme des tentatives de suicide, etc. Mais le psy est aussi utilisé dans l'entreprise pour cacher les vrais problèmes. C'est-à-dire que, et ça ce sont des gens des syndicats qui me l'ont dit, mais même les syndicats nous-mêmes, on va dire à quelqu'un qui nous fait état d'un souci avec son management, on va lui dire tu devrais peut-être aller voir quelqu'un, et on va lui donner l'adresse de notre référent, du référent de l'entreprise, au lieu de s'interroger sur ce qui ne va pas dans le management.
Tout simplement l'accélération des rythmes de production
et
du fait qu'on est sous pression.
Et le flux du travail et les nouvelles
technologies, le numérique
et l'adaptation aux nouvelles technologies, ou tout simplement le manager qui a un mauvais management.
Armel Auger, on va bientôt arriver à la fin de cette émission. On va entendre un reportage dans quelques instants qui va vous intéresser. Mais juste avant, on va quand même s'allonger avec un people d'ailleurs. Vous en parlez des people qui tous confessent aller voir des psys.
Quel people n'a pas son psy? Allez. Ça, c'est quasiment impossible d'être un people sans avoir un psy.
Je vous offre Passy, mon psy.
Bonjour docteur, ouais, j'ai créé mon parallèle univers. C'était inconscient et profond, mais aujourd'hui j'ai besoin d'aide. J'ai pas d'hallucination, ni de fantôme ou de bonhomme vert. J'ai vu, lu entre les lignes depuis mon esprit erre. Perturbé, j'ai vu l'homme trahir et tuer tel animal. J'ai vu le rouge, le noir, j'ai eu la dalle, j'ai lu Stendhal. J'ai vu un prêtre pédophile, un politico, fils d'immigré facho, bois de Boulogne, des lascars au boulot et des keufs macro. Où est le vrai mec, Philitel Welbeck, je me pose des questions. Et j'ai trop d'amis qui auraient besoin d'une bonne consultation. Entre raison et prime, entre le cerveau et le string, c'est pas clair dans ma tête, c'est le combat. C'est clair stream. J'ai même vu un de mes potes que mon brolic se retournait contre moi. Tombé dans une embrouille, j'ai dû courir, sinon je serais pas là. Croire en qui, en quoi? Voilà la question que je me pose, doc, je crois en moi. Mais c'est l'équinoxe de mon cerveau, trop l'équimose. C'est confidentiel, c'est entre toi et moi. C'est existentiel, ça mon psy m'a dit. Pense à ta vie ou pourquoi. Ferme les yeux, réfléchis. Des balles, c'est normal. Ça, mon psy me l'a dit.
C'est pas si, mon psy, chez 7 milliards de voisins, que racontent les psys sur nos sociétés. Armel Auger, on va achever cette émission avec, je vous le disais, un reportage encore mieux que le cabinet d'un psy depuis septembre dernier. Il existe une Fury Room. Fury, c'est la colère, hein, a ouvert ses portes à Paris dans le deuxième arrondissement. Fury Room, d'ailleurs, c'est une marque déposée, hein, comme la salle où vous avez le droit de devenir une furie. Et c'est même recommandé, puisque vous pouvez tout casser dans cet espace qui est cloisonné aux allures de cave. Le concept est né au Japon avant de se développer aux États-Unis, au Canada, et on en parle même, on parle de rage room aussi, salle de rage. Et cette furie gagne donc maintenant l'Europe. À Paris, la séance de 20 minutes peut coûter jusqu'à 125 euros à partager à 3 ou 4 participants. Notre reporter Charlie Dupiot a tenté de jongler entre les débris au milieu de 9 collègues en plein team building. Venez.
Alors, avant tout, vous allez me signer une petite décharge.
Vous venez à plusieurs, là, vous êtes 9?
Oui, alors on est une société, en fait, et on fait un team building. Donc, du coup, j'ai choisi la Fury Room pour qu'on puisse faire une petite activité cet après-midi. Recharger les batteries, enlever tout ce stress, que tout le monde se défoule, etc.
Vous travaillez dans quoi?
Dans un cabinet de recrutement. Du coup, moi je suis CHO, Chief Happiness Officer, en charge du bonheur de l'entreprise, donc j'organise les événements, etc. Ça peut être des laser games, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Le simulateur de chute libre, c'est quelque chose où on vole en fait, dans un genre de tube.
Et vous n'avez pas peur que ça soit compliqué de se lâcher totalement devant des collègues?
Les connaissants, je pense qu'il ne va pas y avoir de soucis pour se lâcher.
Ils sont en train de se changer, de mettre une combinaison, je vais aller les voir.
D'accord. Il faut enfiler une combinaison.
Des combinaisons, une pièce qui ressemble à celle de mécanicien.
Ouais, de jardinage.
Le casque, c'est celui-ci.
Choisissez un casque.
C'est un beau casque qui est assez massif. Ça fait un peu penser à un casque de Dark Vador. Vu l'épaisseur du casque, je pense qu'à mon avis, on va recevoir pas mal de trucs sympas sur la tête.
Vous avez mis une sorte de plastron pour vous couvrir le torse.
Oui.
On est prêts, on est bien couverts.
Et vous êtes tous collègues alors?
On est tous collègues, on fait une petite sortie entre collègues du vendredi. On fêtait la fin du trimestre. Et du coup, bah, on a tout déchiré, maintenant on a tout pété.
Vous êtes plutôt jeune?
Bah, moyenne d'âge, je sais pas, ça va être 24-25 ans, je pense. Bon, c'est le chef le plus vieux.
C'est bon, on y va? Vous venez avec moi?
Attention à la bête. On descend.
Alors, du coup, bienvenue dans votre Fury Room. Quelques petites règles de sécurité avant de commencer. On se tape pas dessus, ok? On s'envoie rien l'un sur l'autre. Faites attention quand vous armez vos outils que l'autre soit pas derrière, ok? Et on n'enlève ni les casques ni les gants pendant la séance. Ça marche? Alors après, si vous voulez casser quelque chose contre un mur, ce sera uniquement contre ce mur-là et sera tout ce qui est bouteille et vaisselle, ok? Alors, il y a quand même quelques petites choses qu'il faut pas exploser dans ma Fury Room. Ça va être mes murs, ceux-là. Du coup, ce meuble-là, vous pouvez casser des choses dessus, mais pas s'acharner sur le meuble, ok? Et là-bas, du coup, il y a Bob, le mannequin. Donc vous pouvez lui taper dessus avec tout sauf avec les pieds de biche. Si vraiment vous voulez vous acharner, il y a la souche en bois qui est faite exprès.
Okay.
Ça marche?
Ouais.
Eh bien, vous avez 20 minutes pour tout casser. Amusez-vous bien.
Pardon, attendez, je mets juste un casque avant d'en prendre la tête.
Ouais.
Donc vous avez pris une batte et vous deux, ouais, un pied de biche.
On est parti là?
Ouais, on est parti là.
On s'écarte de l'étagère. Encore des projectiles. Je m'en suis pris un sur la jambe.
Je pense que c'est pour ça les protections à la base.
Je vais me mettre à l'abri. Vous avez explosé la table.
Un petit peu, oui, pardon.
Donc sur la table, il y avait des assiettes, des verres. Donc le spectacle qu'on voit, c'est vous trois en combinaison blanche, orange, avec des casques qui vous défoulez totalement. Ça fait un peu peur, toute cette violence de loin.
Faut pas avoir peur, c'est un moyen de décompresser avec la pression du boulot.
Et qu'est-ce qui vous stresse dans votre boulot, dans votre travail?
On est attendu sur des objectifs, des résultats. C'est à la fois motivant et un petit peu stressant. Et en fait, c'est un challenge. Au sein du cabinet, la performance à faire. On a réussi la performance, du coup on avait une demi-journée, une partie de la journée ici à la Fury Room et l'autre à un resto étoilé.
En échange en fait d'objectifs de performance que vous avez atteints?
Ouais, en termes de chiffre d'affaires, en termes de recrutement, à réaliser en équipe. Et quand on l'atteint, du coup on a une récompense.
Est-ce que vous travaillez en fait comme consultant pour des entreprises, c'est ça?
On va recruter en fait des développeurs pour les startups et du coup on va recruter, on va accompagner les candidats dans leur recherche de poste idéal et puis on va accompagner les entreprises dans leur recherche de candidats idéal, tout simplement.
Et comment vous le gérez ce stress au quotidien, indépendamment de cette Fury Room?
Moi en tout cas c'est le sport. Je fais au sport 3 fois par semaine, c'est de la musculation.
On a bien explosé l'ordinateur.
On a été performant je pense.
Surtout ouais, tous les ordinateurs.
C'est pas le plus facile à casser, je dirais. Les bouteilles, un petit, un grand plaisir parce que ça pète vraiment dans tous les sens. Après, je pense que l'ordi, il est aussi là comme un symbole.
Pour me parler de symbole, ça serait le symbole de quoi, l'ordinateur?
Du bureau, évidemment, du bureau, c'est sûr.
Je dirais au-delà du travail, c'est la présence de l'écran aussi, qu'on a envie de péter. On est dans un quotidien où justement, il faut tout construire, il faut que tout soit bien, parfait, organisé. Et là, c'est cool, on peut vraiment détruire.
Il y a votre chef là qui est là, non?
Ouais. Ouais.
Et vous vous sentiriez à l'aise de casser devant lui, par exemple?
Ouais,
on s'en fout.
Ouais, pas de soucis.
Aucun problème.
Pas de problème.
7 milliards de voisins.
Pour se parler.
Un nouvel exutoire à Armel Auger.
Bah, ça en dit long, d'abord sur la créativité de l'univers, parce que ça, on peut le rassembler sous le vocable psychothérapie. Et alors là, il y en a plus de 500, hein, et il y en a tous les jours. Et c'est une créativité phénoménale dans le domaine. En général, on mélange plein de choses, d'ailleurs. On mélange de la méditation, en même temps on casse, en même temps, bon, voilà. Et puis, ça en dit surtout long sur l'état quand même de malaise d'un certain et d'une certaine mise en cause d'un fonctionnement à la fois de l'individu, de la société. C'est la société. Et on pense penser, PAN, c'est-à-dire soigner avec comme ça des kits.
Autrefois, on avait la prière ou la littérature.
Voilà, on avait la prière. Alors, dans les années 80, on faisait sauter aussi les gens en soie à l'élastique. Hein, c'était formidable. On les faisait marcher sur des braises aussi. C'était bon, voilà. On ne s'interroge pas. Le problème avec les psys, c'est que on se cache derrière eux et on ne s'interroge pas sur les véritables problèmes et les véritables fonctionnements des individus
sur
dans un certain type
nous
de société.
Avoir prise, finalement. Hein, voilà. Comment retrouver
comme
notre
disait
libre arbitre.
des interlocuteurs encore une fois tout à l'heure, c'est vrai que dans nos sociétés, il y a réellement des maillons manquants. Il faudrait peut-être redécouvrir ce que veut dire communiquer vraiment, ce que veut dire vraiment. Parler,
tout simplement,
et non pas décoder.
Écoutez la radio, les voisins, ça ira
voilà.
Beaucoup mieux.
Allez,
merci à vous, Armel Auger. Vous devriez voir quelqu'un, c'est le titre de votre livre, De la maternelle à la carte senior, comment les psys s'immiscent dans nos vies, aux éditions L'Artilleur. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Sophia Bédard, Romain Dubrac, Didier Cherouse. Demain, 7 milliards de voisins, journée mondiale de l'eau, comment cesser le gaspillage et mieux utiliser les eaux usées. À demain, les voisins.